Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle émission Au Bon Soin, l'émission du magazine Sané. Aujourd'hui, je reçois Pauline, psychopraticienne, écothérapeute. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Dans les dernières émissions, on a abordé le sujet du chamanisme. Et bizarrement, il y a un lien ou une sorte de lien assez lointain, enfin une sorte de connexion entre le chamanisme et l'éco-psychologie que toi tu pratiques. Est-ce que tu peux nous parler déjà d'éco-psychologie et nous dire éventuellement ce qui pourrait rapprocher du chamanisme?
Alors en éco-psychologie, effectivement, on travaille sur le lien entre l'écologie et la psychologie, le lien qu'entretiennent ces deux champs disciplinaires. Donc il s'agit bien d'un champ transdisciplinaire. Ce n'est pas une nouvelle filière de l'écologie, une nouvelle filière de la psychologie. C'est un champ à part entière. Et dans ce champ-là, on va s'intéresser à la santé planétaire et à la santé humaine et comment l'un ne va pas sans l'autre.
C'est donc le lien entre l'être humain et la nature.
C'est ça.
Alors, comment tu définirais ton travail? Comment ça se passe avec les personnes que tu reçois, que tu accompagnes?
Alors, les personnes que je reçois, que j'accompagne, elles viennent me voir pour différentes raisons. Mais l'idée, en fait, c'est dans l'accompagnement de la personne, à un moment donné, c'est d'aller les accompagner à se reconnecter à une part d'elle-même, à cette part qu'on a finalement peu ou plus l'habitude d'écouter dans notre société moderne, occidentale, basée sur une logique d'économie et de profit. C'est la part de soi intime qui est reliée au reste du monde. C'est notre part naturelle. Donc, ce que je propose, c'est d'accompagner les personnes à recontacter cette part intime, cette part naturelle, à se reconnecter à eux-mêmes au travers d'un contact avec la nature. Pour ça, je peux proposer des séances à la fois en cabinet, mais aussi en nature.
Alors, tu as un diplôme de psychologue, c'est ça?
Oui, j'ai été diplômée en psychologie, ouais, il y a quelques années. J'ai eu un doctorat en psychologie, puis j'ai eu un autre master pour pouvoir pratiquer en tant que psychologue. Et j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années auprès d'enfants et d'adolescents qui présentaient principalement des troubles du comportement. Et j'ai commencé à travailler et à m'intéresser à l'éco-psychologie durant cette période-là où je pratiquais en tant que psychologue avec des enfants. Je me suis aperçue que le contact avec la nature leur apportait beaucoup, en tout cas beaucoup plus que le travail classique que je pouvais leur apporter en cabinet jusqu'à présent. Et donc dans ce travail-là, j'ai amené en fait les enfants au contact de la nature. On est sortis du cabinet et on est allés en nature. On est allés s'asseoir par terre, sur le sol, toucher la terre, toucher des cailloux, toucher du sable, toucher des arbres, grimper aux arbres. Avoir le vent dans les cheveux, être au contact en fait, des différents éléments. Et je me suis aperçue qu'il y avait un travail thérapeutique tout à fait différent qui venait se consolider là, avec une relation beaucoup plus presque approfondie. En fait. J'ai réussi à établir un contact avec des enfants que je n'avais pas réussi à établir jusque-là. Et donc de là, j'ai commencé à effectivement poursuivre ce travail à la fois de recherche, sur le lien homme-nature, le lien enfant-nature, mais aussi de pratique en amenant les enfants au contact de l'extérieur.
Et c'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un réel lien, une connexion entre la nature et l'être humain.
Exactement. En fait, l'être humain est un élément naturel, est un être naturel, l'être humain. Et il s'est coupé petit à petit de la nature, à tel point qu'aujourd'hui, on parle d'individus hors sol. On dit de nous que nous sommes des individus hors sol. On dit de la nouvelle génération que c'est une génération qui est complètement hors sol, c'est-à-dire qui a grandi complètement dehors de la nature. Sauf qu'on oublie qu'en tant qu'être humain, nous nous sommes construits durant 3,5 millions d'années au contact de la nature. Que la nature nous a aidés à nous construire, qu'elle nous a façonnés.
Bien sûr, aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte de déconnexion à la nature. Avant, on pouvait se dire, ben, on allait chasser, on faisait attention au cycle de la lune, de la terre, de l'eau, quelque chose qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, ou très peu.
Effectivement, c'est complètement déconnecté de cette nature-là. Et la proposition en éco-psychologie, c'est de se remettre à l'écoute de ce cycle-là, à l'écoute de notre connexion, de notre interdépendance à l'égard du reste du vivant, et de notre connexion au monde naturel. Alors quand je dis la connexion au monde naturel et la connexion à la nature, je ne parle pas forcément d'aller faire des câlins et des bisous aux arbres. Je dis ça parce que c'est souvent ce que ça évoque dans l'esprit
dans
des
l'imaginaire.
Gens. Dans l'imaginaire, oui. C'est OK, Pauline, elle amène les gens dans la nature à leur faire des câlins aux arbres. Non, si on veut, on peut faire des câlins aux arbres, mais ce n'est pas tellement l'idée. L'idée, c'est vraiment de se remettre en lien avec ce qui fait notre propre nature et ce qui fait nature, c'est-à-dire la question du cycle du vivant. On est dans une société qui est basée sur la question de la croissance, d'une croissance qui est linéaire. Or, dans le vivant, rien n'est linéaire. Dans le vivant, tout est cycle, tout est rond. Tout est perpétuel recommencement, renouvellement. Et donc, effectivement, peut-être que le meilleur exemple, c'est la cyclicité des saisons. En ce moment, on est en automne, les feuilles tombent, il commence à faire sombre, les températures chutent. On a de moins en moins d'énergie. On sent petit à petit ce besoin de retourner à l'intériorité dans nos racines qui se fait. Pour doucement aller dans l'hiver. Où là, l'hiver, en apparence, tout est mort. En l'hiver, en apparence, on n'a plus d'énergie, on a envie de faire comme les ours, d'hiberner,
oui,
de se mettre dans une grotte, de plus bouger, de rester au chaud sous la couette, pour pouvoir ensuite mieux renaître au printemps, ressortir plein d'entrain, de nouvelles énergies et accéder à l'été au maximum de nos capacités. Ça, c'est le cycle du vivant. On est dans une société où, en fait, on nous demande de fonctionner tout le temps selon le rythme du printemps et de l'été. Il y a quelque chose, il y a un endroit où ça ne peut pas fonctionner, en fait, dans la durée, de ne pas respecter ces cycles du vivant. Donc, se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à ces cycles-là naturels. Et c'est être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi en termes de cycle. Où j'en suis de mon énergie, comment je me sens. Typiquement, quand on est une femme aussi, c'est être à l'écoute de son cycle. Dans le cycle, on n'a pas le même bien-être, la même énergie en fonction du moment où on en est. Et donc, c'est se remettre à l'écoute de toutes ces parties de soi.
Donc, tu dirais que nous, en tant qu'êtres humains, on est vraiment un peu calés sur le cycle de la nature, quel qu'il soit, enfin, même si c'est un cycle de saison ou un cycle, peu importe le cycle. Au final, on est en sorte de connexion par rapport à ça.
À la base, oui.
À la base.
À la base, oui, on l'est fondamentalement. Et c'est quand on n'est plus au contact de ça, justement, c'est quand on n'est plus au contact de ces cycles-là qu'il y a quelque chose qui commence à mal aller. C'est quand on n'est plus au contact de ce vivant à l'intérieur de soi et à l'extérieur de nous et en lien avec ce vivant à l'extérieur qu'il y a des dérèglements qui se mettent à opérer. Des dérèglements émotionnels, des angoisses, des questionnements existentiels, une perte de sens, une perte de repères... Et l'idée, c'est de se reconnecter à soi-même et à la nature pour pouvoir retrouver ces bases-là, cet ancrage-là.
Retrouver une sorte d'équilibre global de la nature et de soi-même.
Exactement, ouais.
Est-ce que du coup, ces sortes de déséquilibres, ça peut vraiment créer une réelle anxiété chez l'être humain ?
Oui, alors ça peut... C'est-à-dire qu'il ne faut pas effectivement confondre plusieurs choses. Il y a des difficultés personnelles que les gens peuvent rencontrer en lien avec des événements de vie. Elles y sont, elles existent et je ne les nie pas. Sauf qu'elles peuvent entrer en interaction ou être majorées par l'influence de l'environnement extérieur et de ce qu'on perçoit ou de la manière dont on est relié à lui. Par exemple, il y a un auteur qui parle, il s'appelle Richard Louve, il parle du syndrome de manque de nature chez des enfants. Les enfants d'aujourd'hui qui ne sont plus au contact de la nature, qui sont parfois pour certains très agités, qu'on va avoir tendance à qualifier d'enfants hyperactifs ou d'enfants oppositionnels, des enfants qui ont besoin d'énormément bouger. Un enfant a tout le temps besoin de bouger, c'est normal, ça fait partie de sa nature. Et là, ce sont des enfants qui ont particulièrement besoin de bouger, beaucoup plus. Et on s'aperçoit de ces enfants qui ne sont pas finalement assez au contact de la nature. Ce sont des enfants hors sol, qui n'ont pas l'occasion de courir, qui n'ont pas l'occasion de grimper dans les arbres, qui n'ont pas l'occasion de respirer l'air frais et pur. Ces enfants-là peuvent souffrir de ce que Richard Louve appelle un syndrome de manque de nature. Autre chose, chez l'adulte, le manque de connexion à la nature, ça implique petit à petit en fait, un manque de connexion à soi. On a l'impression d'évoluer en étant un petit peu à côté de soi pour répondre à un rythme non pas naturel, non pas personnel, mais à un rythme sociétal qui nous est imposé, qui nous est donné. Ça crée des décalages qui, sur le long terme, effectivement, peuvent générer de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression, une perte de sens, ça peut faire partie des choses-là. Autre chose aussi, c'est quand on se coupe... c'est plutôt, en fait, quand on se remet en lien, quand on a une partie de soi qui est toujours en lien avec ce vivant, alors à ce moment-là, on peut développer ce qu'on appelle, et dont on entend parler de plus en plus en ce moment dans les médias, c'est la question de l'éco-anxiété, où là, on s'aperçoit que les souffrances du monde nous impactent, peuvent nous impacter, directement ou indirectement. Quand je parle des souffrances du monde, je parle des règlements écologiques, environnementaux, voire climatiques, qui peuvent avoir une influence sur notre bien-être.
D'accord, donc on reparle d'éco-anxiété juste après notre petite pause musicale. Tu nous expliqueras un petit peu plus en détail de quoi il retourne et éventuellement ce que des thérapeutes comme toi peuvent apporter comme réponse ou aider et accompagner. Alors pour cette pause musicale, tu as choisi Brigade Légère de...
Arthur H.
Arthur H, est-ce que tu as une raison particulière ou non, comme ça?
C'est un morceau que j'aime beaucoup et qui parle de nos forces intérieures, on va dire.
Ah bon, bah c'est voilà. Dans le sujet alors.
Assez poétique. Ouais.
Ça marche, on écoute ça et on se retrouve juste après.
Merci.
Allez mes sœurs, grandes guerrières, vers la lumière, si loin de vous, j'étais perdu. Allez mes sœurs, allez mon frère, la guerre est finie, c'est la victoire. Allez mon cœur, vers ta douceur. Allez mon frère, allez mes filles, folles danseuses, belles amoureuses, vitesse lumière vers vos étoiles. Allez mes filles, allez mon fils, beau Gulliver, vers ta lumière, explorateur. Ta grande voix résonne encore une dernière fois vers ta lumière. Allez mon père, allez ma mère, belle rebelle, folle boxeuse, vers ta lumière, brigade légère. Allez ma mère, pierre précieuse vers ton étoile. Allez ma femme. Allez mes sœurs, allez mon frère, allez mes filles, allez mon fils, allez mon père, allez ma mère, allez ma femme, brigade légère. Brigade légère.
Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Au Bon Soin. On se retrouve après cette petite pause musicale avec Pauline, qui est psychopraticienne et écothérapeute. Merci pour ce partage, Pauline.
Merci à toi et à CFM de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. On parlait tout à l'heure, juste avant la pause musicale, d'éco-anxiété. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Parce que je pense que c'est un terme qui sort de plus en plus, mais les gens ne savent pas vraiment de quoi il retourne.
Alors, l'éco-anxiété, c'est une anxiété qui se manifeste et se développe à l'égard de l'état de délabrement du monde. C'est face aux enjeux actuels écologiques, environnementaux et climatiques, des personnes qui peuvent ressentir effectivement beaucoup d'anxiété par rapport au futur, à ce qui va se passer, à ce qui peut se passer, ou même à ce qui est en train de se passer actuellement au présent. Ça peut aussi revêtir une forme de mal-être par rapport, cette fois-ci, au passé, dans une angoisse beaucoup plus rétrospective, quand ça concerne la perte de la nature telle qu'on l'a connue.
Par exemple, un ruisseau qui n'est plus là, ou une forêt qu'on a abattue, quelque chose qu'on a vu étant enfant et qui n'est plus là.
Par exemple. Par exemple.
Du coup, ça peut créer une réelle anxiété chez l'être humain.
Oui, donc on peut parler effectivement de solastalgie lorsque le cadre naturel qu'on a connu n'est plus, n'existe plus. Là, on parle de solastalgie et on parle d'éco-anxiété face aux inquiétudes qui concernent le présent, par exemple le vécu d'une inondation ou l'écoute à la radio d'une mauvaise nouvelle environnementale, écologique, ou alors face à des événements qui portent sur le futur. Par exemple, quand on s'amuse à lire les rapports du GIEC, oui. Ou quand on assiste aux effets... Quand on prend conscience en fait que les prédictions sur le peu de disponibilité des ressources fossiles, ces prédictions qui ont commencé à être formulées dans les années 70, sont aujourd'hui en train de s'avérer, de se vérifier, alors effectivement ça peut créer beaucoup d'anxiété pour notre avenir et celui des générations futures.
Surtout que tout ce qui était rapports qui ont été édités dans les années 70 ou 80 prévoyait une hausse de la température qui finalement était moindre par rapport à ce qui est encore prévu. On a l'impression que ça augmente toujours et que le désastre arrivera de plus en plus. Donc ça peut créer une certaine anxiété qui est psychologique mais qui du coup va se transformer en souffrance physique aussi, c'est ça ?
Ça peut, oui, effectivement. On peut avoir des difficultés, des symptômes physiques avec des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, avec des sueurs, des palpitations, enfin des manifestations physiques de l'anxiété, mais aussi des manifestations psychologiques, beaucoup plus classiques, comme les entend. Ouais.
Au niveau émotionnel, au niveau du cœur, est-ce que ça peut chambouler aussi un petit peu notre quotidien, tout simplement, comme une dépression, en fait?
Exactement, comme une dépression, ouais. Alors, comme une dépression, mais je tiens quand même à préciser, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on cherche à dépathologiser de plus en plus l'éco-anxiété, hein, à s'apercevoir qu'effectivement on est face à une symptomatologie qui appartient à celle des troubles anxieux. Néanmoins, l'éco-anxiété n'est pas une maladie, l'éco-anxiété c'est une réponse saine face à un monde qui se dégrade, qui se délabre, face à un monde qui va mal. Donc finalement, en tant qu'être interrelié au reste du vivant, si le vivant va mal, si l'environnement qui assure notre survie va mal, il est tout à fait naturel que nous soyons mal aussi.
Oui, ce serait presque pas normal de se dire « Oh, tout va bien !»
Effectivement, on peut s'interroger à savoir même si l'éco-indifférence est un signe de meilleure santé mentale que l'éco-anxiété, par exemple.
Oui, d'accord. Donc, il faut bien mettre l'accent, je pense, sur ça, que l'éco-anxiété n'est pas une maladie, mais plutôt une réponse normale à quelque chose qui se passe mal. Comme, par exemple, quand on vous donne une claque, que vous réagissiez d'une façon voilà, un peu énervée ou triste ou en colère, c'est le même schéma, en fait.
Exactement. L'éco-anxiété, c'est une émotion. Une émotion, qu'est-ce que c'est ? Une émotion, ça vient du latin ex dehors, emotio, mouvement, c'est-à-dire c'est un mouvement de l'intérieur qui va vers le dehors. C'est quelque chose qui doit s'exprimer et qui va aller vers le dehors. L'éco-anxiété, c'est quand on ressent quelque chose à l'intérieur qui nous pousse à agir pour protéger le vivant, en fait. là où l'éco-anxiété peut devenir compliquée, voire pathologique, c'est quand justement cette mise en mouvement, cette mise en action n'est pas, qu'on est face à des personnes par exemple tétanisées, sidérées, et qui ne sont pas dans l'action, alors là, oui, on peut avoir des tableaux qui se compliquent avec des personnes qui peuvent avoir effectivement du mal à se lever, du mal à aller travailler, des pensées profondément dépressives, voire suicidaires. Ça peut aller jusque-là, oui. Ça peut être compliqué et ça peut nécessiter un accompagnement, mais en soi, ça, c'est... Être éco-anxieux en soi, ça ne nécessite pas un accompagnement. C'est un peu comme un deuil, en fait. Quand on est en souffrance parce qu'on a perdu un être cher, on est en souffrance et c'est tout à fait normal d'avoir le sommeil perturbé, l'alimentation perturbée, d'être profondément triste, de ne plus avoir de goût à rien. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas pour autant qu'on va aller voir un psy, en fait. On va aller voir un psy quand ce deuil va se compliquer, va se chroniciser, ou qu'on va avoir d'autres manifestations qui vont venir se surajouter. L'éco-anxiété, c'est la même chose. En soi, quand on est éco-anxieux, il n'y a pas besoin d'aller voir un psy, c'est que tout va bien. On peut avoir besoin d'aller voir un psychologue pour pouvoir dépasser cet état de sidération, cet état de mal-être, pour pouvoir aussi échanger avec une personne qui est sensibilisée à ces questions-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est sensibilisé à la question de l'éco-anxiété. Ce n'est pas dans tous les milieux où on peut en parler. On peut vite être taxé de rabat-joie dans un dîner de famille quand on vient parler de notre anxiété à l'égard de l'état du monde. Entre amis aussi, c'est la même chose. Des fois, quand on se retrouve entre amis, on a besoin de boire un verre, de rigoler et pas forcément de parler de choses tristes et pesantes. Donc finalement, les espaces où on peut parler de cette souffrance-là ne sont pas si fréquents que ça dans tous les milieux. Et ça peut être utile d'aller consulter pour pouvoir... échanger autour de ces questions-là avec une personne sensibilisée à cette problématique.
Donc toi, ton travail, c'est de pouvoir accompagner, mais surtout de faire accepter ce fait d'être éco-anxieux, en fait, que c'est une réaction saine et normale. Et comment tu fais pour arriver à ça, au fait qu'on accepte que l'éco-anxiété, elle est là et qu'elle est normale, en fait.
Alors, à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un... Il y a un niveau duquel j'avais envie de vous parler aussi. C'est un niveau de travail que je fais avec d'autres collègues psy, où on a cofondé une association qui s'appelle le RAFU, c'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique.
Qui est situé à l'Albenc, c'est ça?
Alors, le RAFU, c'est un ensemble de professionnels qui sont situés un petit peu partout en France.
D'accord, c'est juste voilà. Pour situer pour les auditeurs.
Moi, okay. Je suis à l'Albenc en Occitanie, mais d'autres D'accord. collègues sont répartis un peu partout en France, on est plusieurs. Et l'idée, à travers le RAFU, c'est justement de nous regrouper entre nous, de réfléchir à ces questions-là sur l'éco-anxiété, sur comment on accompagne le public, les personnes éco-anxieuses, et comment on parle de ce sujet-là. Toujours dans cette visée de dépathologiser la question, pour pouvoir finalement mieux la repolitiser, cette question-là. Comment on sensibilise aussi les personnes autour de nous. Quand je dis sensibiliser, on parle de sensibiliser effectivement le public, le grand public, mais ça peut être aussi les professionnels de l'accompagnement. Voilà, donc ça c'est une partie du travail. Et l'autre partie du travail dans l'accompagnement des personnes que je vois ou que je reçois, mais c'est ce cheminement intérieur. C'est-à-dire être à l'écoute de ce qui fait souffrance en soi et se rendre compte finalement, amener petit à petit la personne à changer de regard sur ses propres souffrances et sur son lien avec le monde. Okay. Souvent, on se sent, en tout cas, on est face à des personnes qui peuvent se sentir... coupées ou en décalage avec le monde, et finalement, elles s'aperçoivent qu'à travers leurs symptômes, elles viennent exprimer quelque chose de leur appartenance au monde.
Est-ce que ça leur fait du bien parce que ce sont des personnes peut-être qui se sentent un petit peu seules ou qui se sentent déconnectées du reste de la population parce qu'ils se pensent seules, ce qui n'est pas le cas. Et le fait de pouvoir partager avec toi ou d'autres professionnels qui travaillent comme toi, est-ce que ça leur fait du bien aussi de pouvoir juste échanger, partager comme n'importe quel sujet.
Oui, effectivement. Déjà, avoir un espace de parole pour pouvoir venir déposer, venir échanger, juste déposer leur souffrance, qu'elle soit entendue, qu'elle soit reconnue et qu'elle soit légitimée. Et qu'ils puissent aussi, de là, trouver l'impulsion nécessaire à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir justement passer à l'action. On disait ça hein, tout à l'heure, l'émotion, c'est un mouvement. L'éco-anxiété, c'est un mouvement vers la protection du vivant. C'est un mouvement vers le passage à l'action, vers la mobilisation, voire même pour certaines personnes, vers la remise en question totale de leur manière d'être au monde. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelle est ma place dans ce monde, quel est le rôle que je veux y jouer. Je pense par exemple à ces jeunes qui sortent de grandes écoles et qui tiennent des discours où ils disent en fait, là, maintenant, non, moi, je ne peux pas participer à ce monde tel qu'il est conçu actuellement aujourd'hui et tel qu'on me l'a tracé pendant toutes ces années d'études. Je ne peux pas participer à ce système-là, je ne peux pas le cautionner. Et qui chamboule complètement, en fait, leur avenir et leur vision du monde pour se diriger vers autre chose qui sera plus en accord avec le vivant autour d'eux et avec eux-mêmes.
Et pour se sentir mieux, quand on fait de l'éco-anxiété, est-ce que c'est pas judicieux d'aller dans l'action ? Alors, quelle que soit une action locale ou personnelle.
C'est ça, c'est vraiment se mettre en mouvement et passer à l'action. Se mettre en mouvement et passer à l'action, c'est déjà le mouvement intérieur, c'est-à-dire écouter ce mouvement intérieur. La première action, effectivement, c'est déposer de la parole, parler, puis petit à petit, aller impliquer un mouvement qui va venir impliquer tout le corps. Après, ça dépend de chaque personne. Pour certaines personnes, effectivement, ce passage à l'action, ça peut être de s'impliquer au niveau local et associatif pour aller planter des arbres, pour mettre en place un système de compostage dans des villes là où ce n'est pas encore le cas. Pour certaines personnes, ça va être arrêter de prendre la voiture pour aller travailler et se mettre à faire du vélo. Ça peut être ça, en fait. Ça peut être participer ou se mettre à pratiquer des petits gestes au quotidien ou alors arrêter de pratiquer des gestes qui nous mettent en dissonance, c'est-à-dire en contradiction avec nos valeurs. Par exemple, des personnes qui arrêtent de prendre l'avion parce que monter dans l'avion, pour eux, ça les met complètement en contradiction avec leur système de valeurs. Ça aussi, c'est une forme de passage à l'action. Ça peut être aussi de s'impliquer dans des actions de construction d'autres manières de faire et de vivre. Ça peut être... Alors en ce moment, on voit beaucoup des activistes environnementalistes qui vont, par exemple, aller jeter des bocaux de soupe sur des arts, sur des tableaux. En fait, chacun trouve après son moyen. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement pour pouvoir avoir l'impression de participer à quelque chose et d'être dans l'action et de ne pas rester sidéré, de ne pas rester tétanisé dans la peur et dans l'anticipation anxieuse d'une catastrophe à venir.
Vraiment de se sentir acteur de ce changement qui soit en adéquation avec soi-même et avec nos possibilités aussi, quoi.
De se sentir acteur, oui, et puis aussi de se sentir entouré. Parce que ce qui est souffrant aussi dans l'éco-anxiété, c'est non seulement d'assister à la dévastation du monde, mais d'assister à la dévastation du monde dans l'impuissance et dans la solitude. L'idée, en allant s'engager d'une manière ou d'une autre, c'est de se mettre à tisser des liens avec les autres autour de soi.
D'accord. Tu as fait plusieurs conférences, il me semble, sur Cahors, c'est ça ?
Alors, j'ai fait une conférence sur Figeac récemment.
Figeac, d'accord.
Ouais. D'autres sur Dijon, mais un peu plus loin. Mais pour rester ici dans le Lot, j'ai fait une conférence à Figeac. J'ai été invitée par la Maison des adolescents de Cahors, qui a une antenne à Figeac, pour parler justement de l'éco-anxiété, et spécifiquement l'éco-anxiété chez les jeunes.
Qui sont vraiment sensibles à ce sujet, peut-être plus que nous. Ben, le fait que nous, on leur transmette aussi ça, et puis qu'ils voient l'état de délabrement du monde, ça y fait aussi. Donc les jeunes sont particulièrement sensibles à ça, j'imagine.
Les jeunes sont particulièrement sensibles et vulnérables à ça, effectivement. Les jeunes ont accès à une information beaucoup plus rapidement que nous, je dirais, à l'époque, hein, vieille génération, même si je ne suis pas très très vieille.
38 ans, ça va.
Ouais, mais quand même.
Mais oui, c'est vrai, en 10 ans de temps déjà.
On s'aperçoit qu'effectivement, ouais, au niveau générationnel, il y a un autre accès à l'information que ce que j'ai pu avoir, par exemple, moi, il y a 20 ans en arrière, quand j'avais 18 ans. Donc il y a ça, et il y a cette différence générationnelle où aujourd'hui, les gens de notre âge et d'une cinquantaine d'années, finalement, quand ils pensent à un monde complètement déréglé, dérégulé, c'est un monde où ils ne sauront plus. Tandis que les jeunes savent que ça va les impacter directement de leur vivant, en fait. Directement de leur vivant.
Ça va les impacter eux et certainement qu'ils pensent à leurs enfants et aux autres générations. Nous, c'est vrai que bon, on s'en rend peut-être un petit peu moins compte, et encore que nous, notre génération de trentenaires, bon, on commence quand même à bien le sentir.
Oui.
Pour te retrouver, on va sur le site paulineayora-ecopsychologie.fr, c'est bien ça?
C'est
je
ça.
Je ne me trompe pas.
Oui.
Et ensuite sur Facebook?
Oui, sur Facebook aussi, paulineayora-ecopsychologie.
Et Instagram aussi?
Non.
Non, juste Facebook et le site internet, ce qui est déjà très bien, parce que le site est vraiment très très bien fait en plus. Et on a pu te retrouver aussi dans un article dans le magazine Sané, du mois de septembre. Vous pouvez retrouver un petit peu toutes ces infos. Merci beaucoup Pauline.
Merci.
Et bonne journée à tous. Si vous pouvez suivre Pauline sur leur site internet, paulineayora-ecopsychologie.fr.